En fin de semaine, il était prévu un pique-nique mercredi. Sortie de pique-nique à Saint-Michel, la météo. Ça va être incertain, hein, je ne sais pas, mais bon, pour moi, c'est maintenu. Hein. L'idée, c'est départ, rendez-vous là-haut, 10h30. Pour se donner des rendez-vous ici vers 10h. Hein. Donc, il faut s'organiser pour le covoiturage. Qui est-ce qui pense venir au pique-nique? Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, d'accord, 14, après peut-être il y en a plus parce que tout le monde n'est pas là, voilà, ok, donc on a besoin de quelques voitures, hein. Qui a des places dans sa voiture? Nous on en a deux, d'accord, ok, nous aussi, une place, bon, voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez vous joindre à nous pour un pique-nique, l'air Saint-Michel, c'est un endroit très sympathique, on aura des bons moments ensemble, et prions pour la météo, qu'elle soit une météo favorable. Jeudi à 17h, hein, notez bien que c'est à 17h maintenant l'étude biblique, hein, nous continuons notre étude dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7 et 14, on lira en parallèle, hein, dans l'Apocalypse, jeudi 17h, vendredi matin à 10h, rendez-vous pour l'évangélisation, et le soir 19h, toujours une cellule de maison, une étude biblique, hein, je ne sais pas où, mais... Approchez-vous d'Andou. Samedi matin, 10h, évangélisation encore, hein, avec le stand toujours. Et samedi après-midi à 17h30, c'est les préados. Voilà, Métanoïa. Nous ne serons pas là le week-end prochain parce que nous serons chez notre fils en montagne pour nos anniversaires. Voilà, on fera le culte là-haut. Donc c'est notre antépénultième culte, avant-dernier. Dernier culte sera dans 15 jours. Hein, dans 15 jours, il y aura des baptêmes. Je l'annonce déjà. Hein, baptême, rendez-vous, plage, Beau Rivage. Voilà, la plus proche ici, à 9h30 pour les baptêmes. Et puis nous reviendrons à l'église pour le culte. Donc ce jour-là, il n'y aura pas de réunion de prière à 10h parce qu'on ne pourra pas faire les deux. Hein. On priera pendant le culte. Et après le culte, il y aura un apéritif. Voilà. Cet apéritif, hein, c'est pas un buffet pour. Pour nos adieux, voilà, ça sera notre dernier culte ce dimanche-là. Pas d'autres annonces à donner. Hier, il y a eu une bonne réunion de femmes, hein, voilà, quand même, oui. Sur le thème.
Je ne sais pas combien nous étions, mais c'était quand même 12, hein, quelque chose comme ça. Et c'est une bénédiction et nous avons eu le témoignage de Diane qui nous a beaucoup touché, les épreuves qu'elle a connues. Et on vous encourage à venir à cette réunion de femmes pour les femmes. C'est une bénédiction de se connaître et de parcourir les choses ensemble.
Amen. Aimez-vous les uns les autres. Alors c'était aimez-vous les unes les autres en l'occurrence hier. Voilà. C'était le thème. Voilà.
Mais c'était aussi le monde des autres.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mm-hmm. Aussi. Ouais. Amen. Nous continuons notre série maintenant dans la parole de Dieu. Hein. Nous avons étudié depuis septembre les grandes doctrines de la Bible. Et nous terminons avec l'eschatologie, c'est la doctrine des temps de la fin. Et nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. La semaine dernière, on était au ciel. Nous étions au ciel. Vous savez, c'est un petit peu comme quand vous êtes dans un avion, au-dessus du nuage. Vous savez, vous êtes au-dessus du nuage, vous avez la mer de nuages, et là vous êtes entouré de ce ciel bleu, le soleil qui brille et qui vous éblouit, et vous êtes bien là. Et puis à un moment donné, vous entendez la voix du pilote qui vous dit « Nous allons entamer notre descente ». Alors vous êtes un petit peu déçu là, mais ça continue en disant « Voilà, la température au sol est de 5 degrés, le temps est pluvieux ». Voilà, c'est un peu déprimant, hein. C'est un peu ce que nous allons faire. Nous allons redescendre du ciel où nous étions il y a une semaine. Nous avons vu Dieu dans sa gloire, le trône de Dieu. Et on a commencé à entamer notre descente jeudi à l'étude biblique, hein, où nous avons vu les quatre cavaliers de l'Apocalypse, chapitre 6 déjà. Et cette descente n'est pas réjouissante, parce que comme le dit Ésaïe, chapitre 8, verset 22, « Il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. » Parce que nous allons descendre maintenant très bas, nous allons descendre au chapitre 13. Apocalypse, chapitre 13, nous allons descendre voilà, dans cette période ténébreuse d'obscurité et d'angoisse pour la terre, au cœur de ce qu'on appelle la tribulation. Chapitre 13 de l'Apocalypse, nous allons lire ce chapitre. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Mais qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, qu'il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. La bête de la mer, c'est donc un monstre, n'est-ce pas? C'est ainsi que Dieu voit les grands empires humains. Déjà dans le livre de Daniel, si vous connaissez un petit peu, Daniel, il a des visions que Dieu lui donne, des visions prophétiques sur les grands empires qui vont se succéder, tels que l'empire d'Alexandre le Grand, par exemple. Et tous ces empires, Dieu les montre comme des bêtes, comme des monstres. C'est ainsi que Dieu voit les empires humains. Nous voyons ça comme quelque chose de puissant, de prestigieux, mais Dieu les voit comme des bêtes. Notez que Cette bête, au verset premier, elle ressemble au dragon du chapitre précédent, du chapitre 12, hein, cette bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Eh bien, au chapitre précédent, chapitre 12 et verset 3, on voit apparaître ici le dragon. Verset 3, il dit « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. » On sait que le dragon, eh bien, c'est le diable, hein, c'est précisé au verset 9, on va le lire aussi. Hein. Verset 9 du chapitre 12, « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Voilà. Alors c'est normal que la bête ressemble au dragon, parce que la bête ici, c'est le fils du dragon, c'est le fils du diable. Celui que la Bible appelle le fils de la perdition, hein, l'antichrist qu'on trouve décrit déjà dans l'épître aux Thessaloniciens, on va relire ce texte aussi, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4, dont le dragon, le fils du dragon, le diable, le fils du diable. Nous lisons que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, voilà, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Hein, c'est ce que Satan a toujours voulu faire, hein. Déjà, on le lit dans Ésaïe, dans Ézéchiel, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu, hein, pour recevoir toute l'adoration. Et là, cela va se produire sur terre avec ce personnage qui veut se proclamer Dieu. Cette bête aussi est composite. Regardez chapitre 13, verset 2. Elle ressemble à la fois à un léopard, à un ours et à un lion. L'idée ici, c'est que cette bête ou ce personnage prend ce qu'il y a de meilleur, hein, dans chaque, entre guillemets, dans chaque animal. Le léopard, c'est la vitesse. Ça laisse sous-entendre que c'est quelqu'un qui va agir très vite, très rapidement. Ça va aller très très vite. Quand l'Antichrist va se manifester, ça va aller très rapidement, à la vitesse du léopard. Le monde sera pris de vitesse. L'ours, la force de l'ours, hein, donc ça sera vraiment par la force, par la puissance, hein, comme toutes les dictatures. Le lion, sa voracité, hein, on le voit ici, c'est un personnage qui va vouloir tout contrôler, tout dominer, et il y arrivera puisque toute la terre sera dans l'adoration derrière lui. Évidemment, il reçoit tout de Satan, il est dit que il reçoit la puissance, le trône, l'autorité. C'est l'héritier, hein, du diable. Alors il est dit qu'il monte de la mer. La mer, dans la Bible, symbolise toujours les nations, c'est-à-dire tous les peuples qui ne sont pas juifs. Donc on peut supposer que ce passage, on va s'entendre, ce ne sera pas un juif. Hein. Il sortira des nations, il sortira des autres peuples. Et ce qui nous intéresse maintenant ici, c'est ce qui va arriver. Il y a un événement qui va se produire au verset 3. « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » C'est répété à plusieurs reprises dans la lecture. Là. Il va être blessé à mort, une tête, hein, il en a sept. Hein. Donc ça veut dire que ce n'est qu'une partie qui est touchée, mais voilà. Blessé à mort, on le lit... plus loin, blessure mortelle, blessure par l'épée, c'est précisé. Donc il est dit ici qu'il va être grièvement blessé, il y aura un attentat. On peut penser à un attentat. Voilà. Il y a quelques personnes qui vont se rébeller, qui vont voir le danger, ils vont essayer d'éliminer ce personnage, comme c'est arrivé sous tous les régimes dictatoriaux. Pensons au régime des nazis, hein, autant d'Hitler, il y a eu des tentatives, hein, d'attentats qui n'ont pas abouti. Et là, donc, apparemment, voilà, l'Antichrist va passer par une sorte de mort et de résurrection. puisqu'il va être guéri, il va comme revenir à la vie. Quand Jésus est ressuscité, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les médias, n'est-ce pas ? La nouvelle s'est répandue, hein, grâce à Dieu, quand même, et l'évangile atteint le monde aujourd'hui, mais imaginez la résurrection de Jésus-Christ en direct à la télévision. C'est un peu ce qui s'est passé un peu plus tôt. Regardez, il y a un autre événement qui s'est passé au chapitre 11 et au verset 11. Il y a eu deux témoins que Dieu a envoyés, deux personnages qui accomplissaient des prodiges, hein, des témoins de Dieu, qui vont être justement arrêtés et exécutés par l'Antichrist, hein, publiquement. Ils vont être exécutés, on s'est raconté dans le chapitre 11, au verset 7, par exemple, hein, remonter un peu plus haut, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, dont c'est à Jérusalem. Voilà. Donc, ils seront exposés, les cadavres, hein, ils seront morts, vraiment. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Verset 11, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Donc, manifestement, là, il va se passer quelque chose que le monde entier verra. Hein, parce qu'aujourd'hui, avec l'info continue, on peut supposer que 24 heures sur 24, il y aura des chaînes de télé qui montreront ces deux personnages exposés en public, voilà, comme des ennemis de la paix, des ennemis du monde, voilà, des criminels. Mais à un moment donné, ils vont ressusciter. Dieu va les faire revenir à la vie. Alors le diable, il va faire la même chose avec l'Antichrist. Hein, attentat, blessure comme mortelle, et puis là, il va le guérir, le ramener à la vie. La différence, c'est que là, le monde entier va être... Oh, dans l'admiration, la terre, il est dit, fut dans l'admiration, si on revient au chapitre 12, hein, chapitre 12 et verset, chapitre 13, pardon, et verset 3, la fin du verset, rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Donc maintenant, c'est la gloire. Et ils adorèrent même le dragon. Hein. Oui, quand on adore l'Antichrist, on adore aussi celui qui est derrière, hein, c'est-à-dire le diable. Avec cette parodie des paroles de Moïse, hein, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Moïse, dans l'Exode, chapitre 15, verset 11, hein, avec le peuple d'Israël, a chanté un cantique à la gloire de Dieu, Exode 15, verset 11, qui, voilà, qui est repris quelque part ici, mais attribué, destiné à la bête et au diable. Qui est comme toi ? Parmi les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi finalement ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ? Et que dit ce texte ici ? Voilà. Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ? Voilà. Adoré par ceux qui sont perdus, adoré par ceux qui... Verset 8, on va le relire, hein, Apocalypse 13, verset 8. « Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie ? C'est la grande question que je vous pose ce matin. Vous oublierez peut-être les détails sur la bête ou les bêtes et l'Antichrist, mais la grande question que vous ne devez pas oublier, c'est est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie ? Parce que si au ciel, il y a un trône où Dieu règne, au ciel, il y a aussi un livre. Il y a un livre au ciel. Et dans ce livre sont écrits les noms de ceux qui ont cru à l'agneau, voilà, qui ont placé leur foi dans l'agneau immolé dès la création, dès la fondation du monde, mes amis. Et si votre nom n'est pas écrit dans ce livre, parce que vous n'avez pas cru, eh bien votre destinée est terrible. Apocalypse 20, verset 15, il faut prendre conscience de cela. Apocalypse 20, verset 15 nous dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie » fut jeté dans les temps de feu. C'est l'enfer. c'est la perdition, mes amis. Dieu ne veut pas cela pour vous. Dieu veut que vous puissiez aller au ciel et vous réjouir, comme le dira Jésus. Il dira, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Votre nom est-il écrit dans le ciel, dans le livre de vie? On reviendra là-dessus. La bête continue dans ses abominations. Apocalypse 13, verset 5, on l'a lu. Maintenant, il va blasphémer contre Dieu, prononcer des paroles arrogantes. Verset 5. Alors, les paroles arrogantes, c'est intéressant, le mot grec, c'est mégalo. Des paroles mégalo. Mégalomane, vous savez, c'est quelqu'un qui a la folie des grandeurs, quelqu'un qui est animé d'un orgueil excessif, voilà. Et ça, c'est le propre de tous les dictateurs, de tous ces hommes qui sont élevés et qui ont manipulé les foules. Mais en plus, il va blasphémer. D'ailleurs, des noms de blasphème sont sur chacune des têtes, n'est-ce pas, de cette bête. Blasphémer, c'est quoi? C'est parler mal de Dieu. C'est injurier Dieu, c'est le calomnier. C'est ce qu'a fait, c'est ce qu'a dit déjà Daniel dans son livre. On va lire deux versets dans Daniel qui confirment cela. Daniel qui ressemble beaucoup à l'Apocalypse, chapitre 7 et verset 25. Toujours ce même personnage, toujours cette bête, cet antichrist. À Daniel 7, 25, il est dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Voilà, c'est parler contre Dieu. Et puis 11, 36, encore plus fort, 11, 36. Au milieu du texte, il est dit, il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Mais vous savez, c'est déjà le cas aujourd'hui. Quand vous écoutez les médias, quand vous lisez les magazines, quand vous entendez ce que les gens disent, mais c'est des blasphèmes continuels contre Dieu, les gens se moquent de Dieu, les gens blasphèment contre Dieu, contre Jésus-Christ, contre la Bible, n'est-ce pas? Dernière action, verset 7 d'Apocalypse 13, « Et lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » C'est la persécution de tous les croyants. Persécution à mort. Hein, le verset 9 nous parle, verset 10 nous parle de captivité ou de mort par l'épée. C'est déjà le cas aujourd'hui. La persécution est un fait pour les chrétiens. Le christianisme est la première religion persécutée dans le monde. Des églises sont brûlées, des chrétiens sont tués aujourd'hui. Et là, ça sera à son comble. Hein, la prison, la mort pour beaucoup, pendant 42 mois, 3 ans et demi, la moitié de la tribulation. Première bête. Malheureusement, elle n'est pas seule. Il y en a une deuxième. Verset 11. Je vis monter de la terre une autre bête. Là, nous allons être maintenant en présence d'une véritable trinité diabolique. Il y a le dragon, qui est Satan. Il y a le fils du dragon, qui est l'Antichrist. Et puis, il y a un troisième personnage ici, hein, qui est appelé ailleurs le faux prophète, le pseudo-prophète. On le lit au chapitre 19 et verset 20, regardez. Hein. Là, il est nommé un peu différemment. Il n'est plus appelé la bête, la seconde bête, mais il est dit, au verset 20, quand Jésus va avoir la victoire, la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Voilà. Le faux prophète, le pseudo-prophète. Et alors c'est intéressant comment il est décrit au verset 11 d'Apocalypse 13. Il avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais il parlait comme un dragon. Vous savez, ça me fait penser à un travesti qui est déguisé en femme, mais il a toujours la voix d'un homme. Il a beau se déguiser, mais ça trompe personne. On devine que c'est pas une femme. On devine que c'est pas un agneau non plus. Ce n'est pas un agneau. C'est de la tromperie. Hein. Il cherche à tromper. C'est un loup. déguisé en brebis. Au verset suivant, on voit, verset 12 donc, qu'elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête. C'est le ministre de la propagande, c'est le Goebbels des nazis, vous savez, le ministre du culte de la bête. C'est lui qui va organiser tout le culte. Voilà. Elle obligeait à adorer. Quelle parodie de l'adoration. Peut-on obliger à adorer le Seigneur ? L'adoration doit être volontaire. Elle doit venir du cœur. Et Dieu veut qu'on l'adore en esprit, en vérité, avec amour. Ça fait penser à la Corée du Nord, n'est-ce pas ? Et à tous les régimes totalitaires, en particulier communistes, où il faut applaudir tout le temps. Le grand chef, il faut applaudir jusqu'au sang, presque. Façon d'adorer, n'est-ce pas, et de s'incliner. Et on verra que ça va encore plus loin. Plus de liberté de conscience, plus de liberté de culte, bien sûr. Et ce faux prophète va opérer des prodiges, il est dit, au verset 13. Des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. À l'image d'Élie, qui faisait ses miracles, ou de ses deux témoins aussi de l'Apocalypse. Regardez un autre texte, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10, où il est dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Alors oui, on peut dire, oui, il y avait des miracles quand même. Il y aura des miracles, il y aura des signes, il y aura des prodiges. Oui, mais mensongers, trompeurs. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aimez-vous la vérité, comme Elias, comme Daniel, qui ont cherché la vérité de tout leur cœur, malgré les difficultés. Verset 11. Alors, il faut bien dire une chose en lisant les versets suivants. Verset 11 et 12, c'est que là, on est dans cette période de la tribulation. C'est une autre période. L'Église aura été enlevée, on en a parlé. Donc, on n'est plus sous la grâce. Sous la grâce, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. L'Évangile doit être annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais là, on est dans une période de jugement. Et là, il est dit que, verset 11, « Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'également pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. » Voilà. Donc, ce qui change là, c'est que maintenant, il y a un jugement. Ceux qui n'ont pas cru à la vérité, ils vont croire au mensonge. Ils n'ont pas reçu la lumière, ils vont être aveuglés et ils vont aller vers les ténèbres. Donc, ne tardez pas pour venir au Seigneur. Pour croire au sacrifice de Christ, c'est aujourd'hui le jour favorable. Le jour où le Seigneur va revenir, l'Antichrist va arriver. Et là, les ténèbres vont descendre sur la terre. Et ça risque d'être trop tard pour vous de donner votre cœur au Seigneur. Ce personnage terrible va organiser le culte. Il y a ici des textes qui sont étonnants. Verset 14 au verset 15 de chapitre 13. On revient toujours au chapitre 13, verset 15. Même verset précédent, verset 14, donc les prodiges. Et il est dit à la fin du verset 14, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et verset suivant, donc il fallait faire une image. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Alors c'est vrai que ça reste... mystérieux, on peut y voir beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on peut facilement imaginer, avec la télévision, avec même des hologrammes, vous savez, on peut faire des tas de choses aujourd'hui avec l'informatique, on peut bien imaginer la facilité avec laquelle on peut manipuler les foules avec des images qui s'animent. Aujourd'hui, vous avez des panneaux publicitaires qui sont des véritables écrans de télé. Vous avez une vidéo qui défile. Ça serait très simple, voilà, sur toutes les images, les statues qui s'animent, etc. Tout est possible, on peut tout imaginer. Hein. Affiches, photos, posters. Ça a toujours été le cas hein, dans les pays totalitaires. Vous aviez toujours des statues de Lénine, n'est-ce pas, ou de Mao, ou de l'Ayatollah dans les régimes islamistes. Hein. Et là, on n'a pas le choix. C'est adorer ou mourir. Soit vous adorez, soit vous mourrez. C'est un peu comme à l'époque de Nebuchadnezzar, un grand roi qui s'est fait construire une grande statue, n'est-ce pas, et qui disait maintenant tout le monde, au son de la trompette et des instruments de musique, vous devrez vous prosterner et adorer. Cette statue, c'est moi. Et quiconque n'adorera pas la statue sera jeté dans la fournaise ardente. Voilà, c'est ça, c'était adorer ou mourir. Hein. On sait que 3 juifs ont résisté hein, et Dieu les a épargnés. Mais ça sera comme ça. Ça sera comme ça pendant cette période. Si vous n'adorez pas, vous serez mis à mort. Et puis on arrive à ces versets qui ont fait couler beaucoup d'encre, versets 16 à 18. Hein. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Je ne vais pas vous donner la signification ce matin parce que je ne l'ai pas. Hein. Tout ce qu'on peut dire, c'est que avec le chiffre suivant, le chiffre 666, on a identifié beaucoup de personnages. Certains ont vu là Néron, l'empereur romain qui a persécuté les chrétiens. D'autres ont vu le pape, n'est-ce pas ? Ou d'autres encore Hitler. Tout ce qu'on peut dire, c'est que 666, c'est le maximum que l'homme puisse atteindre, n'est-ce pas ? Il ne pourra jamais arriver à la perfection de Dieu qui est 7, 7, 7. Voilà. À son plus haut, l'homme sera toujours inférieur à Dieu. Il n'atteindra jamais la perfection du Seigneur, même au summum de sa puissance. Donc, voilà, si on revient sur cette marque, hein, la marque, c'est un mot intéressant, parce qu'en grec, la marque, c'est caractère. On aura tous un caractère. Alors, caractère d'imprimerie, vous savez ça, c'est l'idée de graver, d'imprimer, voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de puce électronique implantée sous la peau. Mais de toute façon, même sans cela, on est tous fichés déjà. Ça, vous le savez. Il suffit de vous promener avec votre téléphone quelque part. Si vous avez la géolocalisation, on sait où vous êtes. Hein. On vous suit à la trace, n'est-ce pas ? Et ces derniers temps, vous avez tous vu sur Internet ou à la télé ce reportage sur ce qui se passe en Chine. Grand projet qu'il y a en Chine, chaque citoyen est fiché, est repéré, n'est-ce pas ? Et selon son comportement, ça sera un bon citoyen ou un mauvais citoyen. Si c'est un bon citoyen, il a accès à plein de privilèges. Si c'est un mauvais citoyen, il est tout de suite repéré par des caméras partout. Il peut avoir des difficultés pour se déplacer, pour voyager, par exemple, pour avoir un crédit bancaire, etc. Donc là, on est en train de préparer, avec ce genre de système, un contrôle total sur les individus, mes amis. Mais j'aimerais revenir maintenant sur le livre de vie, parce que c'est ça la clé, c'est ça qui est le plus important pour nous aujourd'hui. Hein. Ce livre de vie dont nous avons parlé, déjà évoqué d'ailleurs dans le livre de Daniel, on peut relire ce verset aussi dans Daniel, Daniel 12, verset 1, pour vous montrer que ce livre qui est au ciel, il est déjà mentionné dans l'Ancien Testament. Hein. Alors, Daniel 12, la fin du verset, ça parle de la même époque, vous voyez, un temps de grands troubles, l'époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Voilà, pourtant. Hein. Est-ce que vous êtes inscrits ? Important de vous inscrire, hein. Inscrit dans le livre. Hein. Le livre pour être sauvé. Hein. Vous savez, c'est un petit peu comme si vous êtes invité à une grande réception, n'est-ce pas ? Invité, donc, vous vous présentez à l'accueil de cette grande réception, et là, on vous dit, vous avez un carton d'invitation, quel est votre nom, etc. Alors, vous déclinez votre nom, puis La personne parcourt le registre, elle dit « Je suis désolé, mais tu n'es pas sur la liste. » Vous ne pouvez pas rentrer. Hein. Vous pouvez pas rentrer. Pas d'invitation, pas de carton, pas de nom inscrit en tout cas. Voilà, vous avez été invité, mais... Votre nom est-il dans le livre, hein? Je répète la question. Hein? Regardez quelque chose d'intéressant dans l'Apocalypse. C'est l'Apocalypse qui en parle le plus de ce livre de vie. Il y a plusieurs versets, mais je vais commencer avec 3.5, Apocalypse 3.5. Apocalypse 3.5, où il est dit, Jésus dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alors là, il y a une notion nouvelle, c'est que le nom peut être effacé du livre de vie. Déjà, Moïse avait fait une prière étrange à un moment donné. Il avait dit, Seigneur, efface mon nom de ton livre, mais que ton peuple soit sauvé, s'il faut. Il était prêt à se sacrifier pour son peuple. Donc déjà, il y avait cette notion d'un livre où il y avait le nom écrit, mais le nom pourrait être effacé. Je vais vous dire ce que je pense. Hein, c'est personnel. Je n'en fais pas un point de doctrine à croire absolument. Moi, ce que je pense... Et je crois que c'est biblique, que Christ, il est mort pour tous. Il est mort pour tous les êtres humains. Il est mort pour tous les hommes. Potentiellement. C'est-à-dire que, mort pour tous, mais nous devons valider son sacrifice, en quelque sorte. Et depuis qu'il est mort pour tous, le nom de tous est écrit dans ce livre. D'accord ? Et le jour où nous nous repentons de nos péchés, et nous croyons dans le sacrifice de Christ, c'est un petit peu comme si nous prenions un stylo, et dans ce livre, nous signons en disant... Seigneur, je crois. Seigneur, j'accepte ton sacrifice. Je veux devenir ton enfant. Mais si quelqu'un ne croit pas, quand il arrive à la fin de sa vie, Seigneur, efface son nom du livre de vie. Le nom est effacé. Alors, je ne fais pas un point fondamental, mais c'est ce que je comprends, moi. Voilà, hein, cette notion d'effacer. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que si votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie, vous n'entrerez pas au ciel. Un dernier verset, Apocalypse 21, verset 27, la dernière mention de ce livre. Il parle de la ville céleste, il dit, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Votre nom est-il écrit dans ce livre? Oui, votre nom est écrit dans ce livre parce que Christ est mort pour vos péchés. Il veut que vous soyez sauvés. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de dire « Oui, Seigneur, je crois. Oui, Seigneur, je crois dans ton sacrifice, Seigneur. Je signe, Seigneur. J'accepte. C'est oui. Eh bien, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous. Parce que vous entrerez dans le ciel, vous irez dans ce lieu merveilleux qu'on a vu la semaine dernière, n'est-ce pas? Ce lieu de gloire avec le Seigneur, avec tous les bien-aimés. Que le Seigneur vous donne de ne pas reporter cette décision ce matin. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas encore dit oui au Seigneur, si vous n'avez pas cru dans ce sacrifice sur la croix de Christ mort pour vos péchés, c'est aujourd'hui qu'il faut faire le pas. C'est pas tout à l'heure, c'est maintenant. Prions. Seigneur, en effet, au-delà de ces prophéties terribles, Seigneur, sur l'Antichrist, sur la bête, le faux prophète, sur le dragon, ce que nous voulons retenir, Seigneur, c'est que c'est aujourd'hui le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le moment de dire, Seigneur, je crois, comme l'a fait Elias, comme l'a fait Daniel. Seigneur, comme l'ont fait tant d'autres, comme je l'ai fait un jour, de dire, Seigneur, je me repens. Oui, alors faites-le ce matin. Faites cette prière. Dites au Seigneur, pardon, parce que jusqu'à maintenant, je t'ai tourné le dos. Je n'ai pas cru. Mais j'ai compris ce matin que je ne dois pas reporter ma décision. Seigneur, j'accepte ce que tu dis, que je suis un pécheur, que je suis coupable. J'accepte, Seigneur. Je crois que ta mort sur la croix était pour moi, que tu as payé mes fautes, mes péchés. Je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant, Et Seigneur, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sauve-moi. Efface mes péchés, Seigneur, par ton sang précieux. Et donne-moi la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà, j'espère que vous avez fait cette prière. Ça veut dire que vous avez signé à côté de votre nom, écrit dans ce livre. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez parler avec moi à la fin du culte, je suis à votre disposition. Je vais laisser la place à... Voilà. On va collecter l'offrande maintenant.